La place.
Caroline Boyer.
La place.
Sur le trottoir d'à côté.
Caroline Boyer.
Espace public de rencontre.
Participation citoyenne.
Action collective.
Politique publique.
Travail social.
La place. Sur le trottoir d'à côté.
Nous retrouvons Jérémy Petit et Alexandre Gaillard, éducateurs spécialisés et médecins au centre de santé communautaire de la ville d'Échirolles.
Et du coup, vous parliez tout à l'heure de la présence d'une infirmière avec une fonction particulière, puisqu'elle n'est pas sur des actes techniques, c'est pas du tout l'approche que vous avez ici dans la fonction de l'infirmière. Alors ça veut pas dire qu'ailleurs elle font que des actes techniques, hein, mais c'est quand même, j'ai l'impression, un rôle particulier, c'est ça qui est...
C'est ça, en fait. Marjolaine, notre infirmière, elle est inscrite dans le dispositif qui s'appelle ASALE, c'est un dispositif national qui est chapeauté, peut-être dire une bêtise, par la Sécu, il me semble, c'est la CPM ou les ARS. La CPM, je pense, donc la Sécu, où ce sont des infirmières, c'est un petit peu dans l'esprit de ce qui peut se faire, enfin, en Suisse, avec les infirmières de pratique avancée clinique, les infirmières cliniciennes de pratique avancée, pardon, où ça ne va pas forcément être effectivement du soin technique, qu'on peut imaginer, une représentation qu'on a de l'infirmière libérale qui va venir faire des pansements, de l'insuline, prendre la tension, distribuer les médicaments, ça, c'est pas ce qu'elle va faire ici. D'une part parce que c'est réglementé, il y a déjà des infirmières sur le territoire et qu'on ne peut pas venir comme ça, la fleur au fusil, venir rajouter une infirmière pour faire ça. Et de toute façon, nous, ça ne nous semblait pas pertinent, parce qu'encore une fois, il y a des infirmières qui le font déjà sur le quartier. C'est comme beaucoup de professionnels sanitaires partout, mais voilà, c'est comme ça. Nous, on est vraiment sur un dispositif d'éducation thérapeutique. Le dispositif FASALE, c'est un dispositif d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire des personnes qui ont des maladies chroniques, diabète, hypertension, bronchite chronique, ce genre de choses. C'est des personnes qui prennent des traitements au long cours, qui du coup toute leur vie vont en prendre, a priori, ou presque, où la maladie va venir impacter tous les pans de leur vie par ailleurs. Et du coup, il y a beaucoup de représentations sur l'alimentation pour le diabète, sur la pollution pour les personnes qui ont des bronchites chroniques, sur plein d'autres questions concernant l'hypertension ou autre. Et donc, Marjo va accompagner ces personnes-là dans ces questionnements. Elle va essayer de voir avec eux quelles sont leurs représentations sur leur traitement, sur leur maladie, sur l'impact que peut avoir leur hygiène de vie sur tout ça, et essayer de détricoter pour, encore une fois, leur redonner du pouvoir d'agir, qu'ils comprennent un petit peu qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Bien souvent, en fait, ils ont beaucoup plus le droit de faire des choses que de ne pas en faire, mais il y a beaucoup de représentations qui font qu'ils s'interdisent beaucoup de choses de par ces maladies-là, ces traitements-là. Et donc, son travail, ça va être de les accompagner pour qu'ils reprennent du pouvoir sur cette maladie, qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont le droit de vivre normalement, même s'ils sont malades, ils ont le droit de travailler normalement, même s'ils sont malades, ils ont le droit d'interagir avec plein d'autres gens normalement, même s'ils sont malades. Et on va essayer de faire en sorte de déconstruire ces fausses images qui leur ont été implantées au cours de leur parcours de santé ou de par leur représentation sur ces maladies-là, pour qu'ils soient le plus, enfin, comme disait Jay, qu'ils soient bien dans leur basket et bien dans leur vie.
Leur redonner leur rôle d'expert parce qu'eux, ils vivent avec ces maladies-là depuis des années et donc c'est eux qui la connaissent le mieux, bien plus qu'un professionnel qui aura sa vision dessus. Donc c'est, en tout cas, c'est leur redonner ce pouvoir d'expertise.
Vous, du coup, en tant que travailleur social, qu'est-ce qu'il y a de différent dans votre pratique ici par rapport aux autres expériences que vous avez connues, est-ce que vous avez pu faire ailleurs?
Il y a des choses similaires parce que j'ai essayé de ramener avec moi toutes les belles choses que j'avais rencontrées avant et j'avais quand même rencontré des choses chouettes. Je viens de la prévention spécialisée à la base. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ce qu'il y a de différent, c'est que ce poste, ce métier, cette pratique, on l'a construite. C'est-à-dire qu'on s'était donné à l'ouverture du centre l'année dernière, un an, pour construire un peu notre projet de service social et notre fiche de poste, savoir un petit peu où on allait. On avait déjà des grandes idées sur ce qu'on voulait faire, mais on savait qu'on allait aussi être confronté à la réalité des gens et puis voir ce que les gens allaient venir amener à des travailleurs sociaux au sein d'un centre de santé. On ne savait pas bien comment les gens s'en saisiraient, on s'est dit qu'on irait aussi là où ils nous emmèneraient. Avec un an de recul maintenant, on a une pratique assez riche. On considère qu'au même titre que nos médecins font de la médecine de premier recours, on fait du social de premier recours. Donc on prend toutes les demandes qui nous arrivent sans renvoyer les gens directement vers, vers un partenaire ou vers quelqu'un d'autre. On essaie de prendre le temps de poser avec eux les problématiques qu'ils rencontrent. Souvent, ils nous sont orientés par les médecins, mais pas que. Et puis et ben après, on travaille autour de tout ça, donc on n'a pas de domaine unique d'action. On va vraiment là où les gens nous emmènent. Si c'est un souci de logement, et ben on ira sur le logement. Si c'est des problèmes familiaux, on va sur les problèmes familiaux. Si c'est de l'accès au droit, etc. Enfin voilà, on construit avec les gens. Mmh. Et puis quand le lien de confiance est suffisamment établi pour qu'ils sentent que effectivement on fait vraiment attention à eux et qu'on ne cherche pas à les renvoyer à droite à gauche juste pour s'en débarrasser, là on peut commencer à redispatcher vers tout le réseau territorial qu'on connaît bien. Et puis il y a des gens qui font toutes ces choses-là parfois bien mieux que nous. Mmh. Mais voilà, il faut prendre le temps de construire quelque chose avec ces gens avant de les réorienter. Et ça, c'est la première différence avec ce qu'on fait avant. On n'a pas un rôle, on n'est pas là pour faire une chose. On est là pour aider les gens à poser un peu à plat où ils en sont, identifier les différentes problématiques qui sont souvent entremêlées entre la santé, le stress, l'anxiété. Tout est lié. C'est pas pour rien qu'ils nous sont orientés par les médecins. C'est des gens qui arrivent dans le bureau d'Alexandre avec une bronchite. Et puis en fait, au bout de 10 minutes, la conversation elle est partie sur comment ça se passe à la maison, il y a des gros soucis financiers, il y a tout ça. Et ça, en fait, ça sort chez le médecin. Parce que c'est un espace sécurisé qui est identifié depuis des années chez mon médecin généraliste. Je parle de moi et on m'écoute. Et bien peut-être que la différence avec d'autres lieux ou un médecin en libéral qui se retrouve dépositaire de tout ça, mais sans savoir forcément vers où renvoyer ses problématiques. Et ben là en fait nous on est à la porte d'à côté, il y a possibilité de passer la tête par la porte, d'être là t'as 5 minutes, ou alors on va prendre un rendez-vous la semaine prochaine. On s'est rendu compte aussi au bout d'un peu de pratique que ça permettait d'alimenter un processus de démédicalisation. Parce que, et c'est pas du tout pour jeter la pierre aux médecins qui sont seuls dans leur pratique, mais quand quelqu'un vient déposer quelque chose de très lourd, parce qu'on a quand même des situations très lourdes qui arrivent, on a des violences sur plusieurs niveaux, violence au travail, violence familiale, enfin des choses très très lourdes. Je pense que certains médecins ou soignants, quels qu'ils soient, à partir du moment où la personne leur dépose ça, vont se sentir dans l'obligation d'apporter une réponse. Quelle réponse on a quand on est médecin en libéral dans un cabinet? A priori, c'est plutôt une ordonnance. Là, aujourd'hui, il y a la possibilité de ne pas passer par là, mais de prendre quand même la problématique en compte. C'est-à-dire que dans le cabinet du médecin, va être validé que ce qu'on vient de poser, c'est un problème de santé. Et ça change tout. Quand on vient de dire, mais en fait, je suis mal au boulot, ça fait 3 mois que je suis en arrêt et tout ça, les gens, ils sont souvent ultra... Ils se sentent souvent ultra coupables d'être dans ce genre de choses. Et là, le fait que le médecin vienne valider que des problèmes sociaux sont des problèmes de santé, et les oriente vers des travailleurs sociaux, c'est pareil. C'est pas la même démarche. Ils ne viennent pas nous voir du tout de la même manière qu'ils iraient voir un travailleur social estampillé, CCAS, département, j'en sais rien. Ça change leur vision d'eux-mêmes et de leurs problématiques. Et ça, je pense que c'est vraiment riche pour nous.
D'accord. Vous avez parlé d'un médiateur pair aussi qui a rejoint votre équipe il n'y a pas très longtemps, je crois.
Une médiatrice.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son rôle, du pourquoi de sa présence
Ouais. c'est un projet qui a été pensé dès le début du centre de santé aussi. Voilà, le rôle de la médiatrice pair en santé, c'est d'être un peu une passerelle transverse à un peu tous les volets du centre, c'est-à-dire qu'elle traverse tant le pôle accueil que le pôle médical, social et le pôle lutte contre les discriminations, avec vraiment un rôle d'accompagnement, mais aussi de traduction. Voilà, de par son profil qui n'est pas un profil professionnel, mais qui est un profil expérientiel. Voilà, on l'a embauché sur un parcours de vie. Voilà, une personne qui vit et a vécu en quartier populaire, qui a eu à faire à des parcours de santé compliqués, à des parcours sociaux compliqués, qui s'est confronté à des travailleurs sociaux et à des et à du personnel médical, et ça ne s'est pas toujours très bien passé. Et donc voilà, on a imaginé que de cette expérience de vie-là, elle serait en capacité d'établir un autre type de relation avec les personnes, mais aussi de pouvoir pratiquer une traduction, mais même à notre rencontre, parce qu'on a beau être super gentil et bienveillant à se dire qu'on va faire des choses super et tout ça, on est capable de se planter complètement et de ne pas s'en rendre compte, parce que notre équipe, elle est quand même composée, jusqu'à l'arrivée de notre médiatrice père, de professionnels, de gens qui ont été formés, qui ne sont pas issus de quartiers populaires forcément. Enfin, donc voilà, on arrive aussi avec nos gros sabots et nos bonnes intentions. On compte aussi sur cette médiatrice pour pouvoir nous recaler si on s'égare dans ce qu'on fait. Et sinon, à proprement parler, de ces activités, elle est arrivée au mois d'août, donc on est encore en train de comme on l'a tous fait, on co-construit son poste en équipe et avec elle. Voilà, elle est sur de l'accompagnement physique, elle est sur le fait de se mettre en lien avec les personnes qu'on a identifiées comme en rupture ou isolées, de pouvoir les accompagner déjà vers le centre de santé pour reprendre un petit peu des parcours de santé pour des personnes qui des fois les ont arrêtées depuis des années, vers les activités qu'on propose, les ateliers, les choses comme ça. Et puis elle est aussi extrêmement en lien avec les partenaires du quartier, les activités qui s'y passent, et voilà, pour pouvoir remettre les gens en mouvement, mais pas que autour de la question de la santé.
D'accord. Vous parlez des ateliers par rapport à la place des habitants du quartier, des personnes qui viennent au centre de santé ici. Qu'est-ce qu'ils construisent ici, enfin, quelle place particulière ils ont? Alors déjà, j'ai bien compris, une place particulière quand ils sont accueillis, dans la manière de les considérer et dans la relation avec les professionnels. Et entre eux, est-ce qu'il y a des espaces, enfin, comment ça se passe en fait, cette dimension communautaire de ce point de vue-là?
Ben, la dimension communautaire et collective et la participation habitante, elle ne se décrète pas. Donc, donc on y travaille, ça fait partie des grandes pensées du centre. Mais voilà, on se rend compte au bout d'un an que ça se construit lentement. Donc on essaie de réfléchir les espaces pour que cette place puisse grandir. C'est pas évident de se saisir d'une place laissée. Ça, on s'en rend compte. Donc, on travaille à essayer de faire avancer ces questions petit à petit et doucement pour pas effrayer les gens. Donc, pour le moment, les ateliers qu'on propose, c'est plutôt nous qui les avons pensés.
D'accord.
Pour faire rapidement, il y en a deux qui sont animés par notre kiné. Plutôt relaxation et plutôt autour des un deuxième plutôt sur les problèmes de dos, etc. et comment les éviter. Voilà, avec là une information un peu descendante, mais pas tellement en fait, parce que la façon dont Maxime gère ses ateliers, c'est vite un joyeux conglomérat de rire et où les gens, je pense, se sentent pas dans l'information descendante. Sinon, sur les autres, c'est plutôt des espaces de parole. Il y a un atelier santé au féminin qui est plutôt juste un espace de parole entre femmes, en non-mixité. Voilà, ça vient parler de questions de santé, mais vous l'avez compris, pour nous la santé c'est très large, donc les discussions peuvent être très larges. Il y a sur les maladies chroniques, bref, on ne va pas faire le détail de tous les ateliers. Quelle place pour les habitants? Nous, dans l'idée, s'il n'y a plus aucun de ces ateliers dans 6 mois, parce que les habitants sont venus avec des idées, des envies de voir des choses se faire, nous, on pourra dégager absolument tous les ateliers qu'on a mis en place. Mais voilà, on fait passer ce message. Les gens nous disent c'est super. De là à dire j'ai une super idée, on va organiser des trucs. Pas encore. Mais ça avance.
Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est vrai que les ateliers, on avait vraiment cette volonté que les premières concernées soient impliquées dans la vie du centre, mais comme Didier, on ne peut pas les forcer. Donc, et on ne voulait pas non plus être dans l'attente de la porte est ouverte, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que ça, on savait très bien que si on faisait ça, on allait être submergé par le côté consultation, travail, vie quotidienne du centre, et que ça allait disparaître de facto. Donc on a voulu quand même sanctuariser un temps de travail et un temps d'accueil, d'atelier, où on était du coup force de proposition. C'est nous qui avons décidé qu'on ferait un atelier santé au féminin, un atelier relaxation avec le kiné, un atelier petit bobo avec les enfants. Voilà. Mais après, on a quand même voulu laisser le plus de participation dans les mains des habitants et habitantes. Et du coup, les ateliers, c'est pas un cours, c'est pas une présentation magistrale sur un thème, c'est vraiment, voilà, soit un espace de parole, soit un espace d'échange, souvent c'est ça d'ailleurs, un espace d'échange de savoir, de connaissances, d'expérience, pour vraiment que les gens se rendent compte qu'ils sont pas seuls face à leurs problèmes, et que c'est des problèmes qui sont connus par d'autres, et qu'on peut collectiviser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de mettre en place assez rapidement. Ces ateliers sont animés par les professionnels du centre, par les 13 professionnels du centre, ça fait partie de notre temps de travail. En fait, comme je disais, on est salarié, donc on a 35 heures hebdomadaires de travail, on a 25 heures de cœur propre de métier, 5 heures de réunion pour faire tourner le centre ou parler des situations complexes, parce que voilà, c'est un centre autogéré, donc il faut qu'on fasse avancer les problématiques quotidiennes, et ça demande au minimum 3 heures de réunion par semaine pour le faire. Et après, il reste 5 heures de temps autre pour faire toutes sortes de choses, bah, par exemple, rencontrer des intervieweurs, intervieweuses, ou animer des ateliers. Et donc voilà, on anime des ateliers, mais l'animation souvent se résume à faire tourner la parole, à faire circuler la discussion, et pour vraiment faire en sorte que les gens puissent parler de ce qui les concerne eux, et pas nous de venir plaquer nos représentations sur comment ils perçoivent tel ou tel problème. Voilà, c'est vraiment les gens qui viennent, qui apportent leurs problématiques, et qui en discutent entre eux, et nous on est juste là pour fluidifier les échanges, faire en sorte que ça se passe bien, que tout et tout se passe bienveillant et bienveillante. Mais notre rôle s'arrête un petit peu là. Et la volonté, idéalement, ce serait qu'à terme, ces ateliers, soit ils soient animés par les habitants et habitantes, soit ils nous disent, bah non, en fait, la forme atelier, ça ne nous convient pas, laissez tomber, on a envie plutôt de faire comme ci, comme ça. Et ça, encore une fois, voilà, nous, c'est... La porte est grande ouverte, mais on n'est pas figé dans nos ateliers. S'il faut les faire disparaître, parce que ça ne convient pas aux personnes, on les fera disparaître sans souci.
D'accord.
Sur les petits outils qu'on a aussi, comme ça, il y a le café-échange, qui est un temps, alors qui a été fluctuant, hein, parce qu'on a fait plusieurs tentatives, hein, forcément, on essaye des choses, on se plante, on recommence. Voilà, donc là on vient de changer son temps, mais voilà, un soir par mois, un mardi, le troisième mardi du mois, on va proposer des temps d'échange autour de questions, qui sont des questions qu'on a laissé en fait un tableau blanc dans l'accueil, où les habitants peuvent venir poser des thèmes, des thématiques qui les intéressent, qui ne sont pas non plus... coller santé quoi. Ils ont le droit de laisser libre cours à leur imagination autour de ça, et puis les gens peuvent venir voter à côté en disant bah tiens, ça m'intéresserait bien tel thème. Donc on a des choses sur quitter les mauvaises habitudes comme la cigarette, comme on peut avoir les enfants et les écrans, comme on peut avoir pourquoi les grands nous ont pas dit que c'était de la merde, comme on peut avoir y a-t-il de l'espoir, enfin voilà, ces questions là mmh. On s'en saisit une fois par mois pour faire un temps d'échange avec les habitants. Parfois, on pourra faire venir des intervenants, mais pas forcément. Mmh. Et sinon, dernière chose par rapport à cette place laissée aux habitants, je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer quand on fera notre premier CA. Normalement, on a un dernier CA entre professionnels, et celui d'après, il devrait y avoir les habitants. Et voilà, on l'a construit de manière... Il y a des lignes budgétaires qui sont réservées à des projets habitants au sein du centre ou en extérieur. Mais voilà, on a réfléchi à des lignes budgétaires, on a réfléchi à des tas d'espaces autogérés. Mmh. Il y a aussi la possibilité de mettre une salle à disposition si les habitants souhaitent créer quelque chose ici. Voilà.
Du coup, vous fonctionnez aussi sur un principe d'égalité salariale entre tout le personnel, enfin tous les travailleurs du centre. Et vous faites le ménage ensemble, c'est ça, dans le fonctionnement, si j'ai bien retenu. C'est anecdotique pour vous. Quel sens vous mettez derrière ces aspects-là, en fait, de fonctionnement d'équipe, de principe aussi
On aimerait bien que ce soit anecdotique, mais effectivement, c'est un petit peu ce qui revient toujours quand on parle de la structure, qu'on explique l'autogestion et autres. Ce qui ressort toujours un peu en fer de lance, c'est l'égalité salariale, et effectivement, vous faites le ménage tous ensemble.
Certes, c'est pas anecdotique pour les autres.
C'est pas anecdotique pour les autres. Nous, on aimerait bien que ça soit un petit peu plus. Après, on comprend tout à fait que ça interpelle, parce que c'est finalement des exemples assez parlants de notre fonctionnement autogestionnaire et avec une absence de hiérarchie au sein de la structure. Voilà, nous, ce qu'on a envie que les gens retiennent vraiment, c'est ça, c'est ce côté, on est en autogestion, c'est-à-dire que les travailleurs et travailleuses du centre sont maîtres de leur outil de production, qui est le centre de santé. Prennent des décisions ensemble, la structure avance parce que collectivement on a envie qu'elle avance dans cette direction-là, parce qu'il y a une volonté philosophique politique commune. Et du coup, ça se manifeste par bah, effectivement le refus d'une hiérarchisation des métiers qui pourrait se retranscrire par une hiérarchie des salaires. On estime que voilà, il y a une égalité salariale de fait, parce qu'il y a une égalité de fonction. On a tous cette casquette de soignants et soignantes, comme on le disait, et du coup, la pénibilité est équitablement répartie au sein des travailleurs, l'implication dans la vie collective du centre est équitablement répartie entre les travailleurs et les travailleuses. Donc ben, ça nous a semblé logique, non sans mal, hein, ça a été de longues discussions, on a rencontré énormément de monde, on a réfléchi à ça longuement, et ça nous a semblé logique au final de travailler en égalité salariale, c'est-à-dire que tout le monde a un horaire identique. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sera remis en question si nécessaire, et on le questionne régulièrement. Pour l'instant, ça nous semble toujours faire sens, donc on continue comme ça. De la même façon qu'on n'avait pas envie d'extérioriser la pratique du ménage, on n'avait pas envie, enfin, ça nous semblait illogique avec notre conception philosophique de dire que le ménage était une tâche qu'on allait déléguer, surtout en plus souvent à des structures qui font travailler des gens en intérim dans des conditions assez catastrophiques, qu'on voit bien trop souvent en consultation. Donc, par souci de logique politique, philosophique et même éthique, on s'est dit que le ménage, en fait, ça faisait partie de la vie du centre, au même titre que tout le reste, et que du coup, de la même façon qu'on peut faire des consultations, des entretiens sociaux, animer des ateliers, animer nos réunions, et ben on fait le ménage. C'est aussi simple que ça.
Et du coup, dernière question, comment vous avez été accueilli ou pas accueilli, je sais pas, sur le territoire avec votre projet au départ et puis à l'ouverture du centre, et aujourd'hui, quelle réception vous avez un peu par rapport à votre projet d'abord, puis maintenant au centre qui existe, par rapport aux médecins, par rapport aux politiques aussi, locaux, par rapport aux habitants, quoi.
Bah, c'est vrai que du coup, comme on expliquait, on a eu une phase de pré-projet qui a été finalement très longue. C'était plus de 4 ans de rencontres sur le territoire, à coup d'enquêtes conscientisantes, de rencontres partenariales, de réunions d'information. Et c'était 4 ans qui n'étaient pas continus. C'était, on venait ponctuellement, de temps en temps, on venait faire une rencontre, on venait faire une réunion, on venait faire une interview d'un habitant, d'une habitante, quelqu'un qui travaillait sur le quartier. Donc ça a été à la fois très long et en même temps, les jeux... ça s'est passé très vite, et il y avait des habitants et habitantes toujours qui nous disaient que parfois ils disaient bon, c'est bien beau leur projet de rêveur, là, ils sont gentils de venir nous demander notre avis, mais pff, ça fait 3 ans et demi qu'ils viennent, ça sera peut-être un jour, peut-être, on verra. Donc, il y avait peut-être aussi une forme de regard curieux, amusé, un peu dubitatif avant que ça ouvre, et puis finalement après quand ça a ouvert, les gens étaient vraiment ravis, aussi parce qu'ils se sont rendus compte qu'on avait tenu compte de tout ce qu'on avait pu recueillir comme information avant. Et on a vraiment essayé de faire ça, quoi, de pas faire du recueil d'informations pour faire du recueil d'informations. On a essayé d'en tenir compte dans ce qu'on a proposé derrière, dans les limites de ce qui était possible. Il y avait évidemment des demandes qui étaient des ophtalmos, qui étaient des dentistes, et ça, structurellement, financièrement, politiquement, c'était compliqué de mettre en place, donc on n'a pas pu le faire. Ceci dit, du coup, on a essayé de rencontrer des personnes qui pouvaient être relais là-dessus, et sur le quartier, il y a des gens qui font des choses quand même assez intéressantes, et sur qui on a pu s'appuyer, notamment TUPS, Trédunion Parole Santé, qui est l'équivalent des ateliers Santé-Ville, qui fait un travail justement de médiation, un travail, il y avait un point écoute qui malheureusement a disparu depuis. Il propose toutes sortes d'activités que nous, on ne pouvait pas proposer, ou pas de la façon dont il le propose déjà, donc on a essayé de faire aussi ce travail partenarial. On a pris le temps de rencontrer toutes ces personnes-là, et du coup je pense aussi que ça a permis à ce que l'accueil soit bon quand on est arrivé. C'est-à-dire qu'on était connus. On était connus des usagers et usagères du centre, on était connus des gens vers qui on orientait et qui pouvaient aussi nous orienter des gens sur des modalités qu'on leur a expliquées. Et puis au niveau politique, pareil, on a été accueillis plutôt favorablement, à tel point qu'on a été même cité dans le programme électoral du maire lorsqu'il a fait son petit flyer lors de la campagne qui a mené à sa réélection. Donc on était annoncé comme une promesse électorale. Donc, donc on était quand même attendu et favorablement, et non, on a des rapports dans le pré-projet puis dans l'année qui s'est écoulée qui étaient globalement bons avec tous les élus de la mairie d'Échirolles.
Aujourd'hui, clairement, on est plutôt bien reçu partout, le projet interpelle, il y a quand même, à chaque fois qu'on participe, en ce moment c'est la saison, les colloques, tout ça, on sait qu'il y a une question un peu prégnante un peu partout en ce moment, c'est le lien entre le sanitaire et le social, comment faire mieux le lien, comment tout ça. Bon, alors on se rend bien compte que ce qu'on fait, c'est pas forcément transférable, mais c'est vrai que quand on arrive dans ces colloques-là, généralement, ouais, les gens sont ultra intéressés par la façon dont ça fonctionne et effectivement ce qu'on arrive à voir comme plus-value à notre pratique et surtout à ce qu'on amène aux personnes. Donc on est très très bien reçu. Après quand on nous demande, comme tu viens de le faire juste avant, oui mais en fait ça fonctionne comment, les financements, le budget, comment ça, l'autogestion et tout ça. Alors là du coup ça allume des étoiles dans les yeux de certains, d'autres prennent un air un peu plus condescendant pour dire que c'est bien joli, mais on est tout jeune et du coup des médecins qui acceptent de se payer à ce prix-là, bon, ils en reviendront quand ils auront fini leur crise d'adolescence. Bon, on essaie d'en sourire. mais voilà, pour le moment, on est plutôt bien reçu. Voilà, après, comme on a tout un volet lutte contre les discriminations, les violences subies et tout ça, et qu'on réfléchit aussi à comment faire un peu bouger les lignes, notamment par des actions de plaidoyer, quand on a des patients, patientes qui accumulent des soucis. Tout ça, on souhaite les aider à porter la voix un peu plus haut que juste individuellement dans un bureau. Donc voilà, c'est pas dit qu'on ait autant d'amis dans 3-4 ans, mais on verra. En tout cas, pour le moment, on est plutôt très bien reçus partout.
Ben merci beaucoup. Je sais pas s'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter sur votre structure, votre travail dont on n'a pas parlé et qui vous semble important.
Là, comme ça, non. Non. Juste dire que c'est... On a emprunté beaucoup de choses dans tous les sens. C'était un peu nébuleux, là, pour les gens qui n'ont pas une vision plus précise de ce qu'elles sentent, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus d'infos, parce que j'ai l'impression qu'on a expliqué un peu tout, mais tout dans les ordres, donc je ne sais pas si tout est très clair. mais non, sinon je pense que les questions permettent de balayer un petit peu une bonne partie de ce qu'on essaye de proposer ici.
Juste deux choses, peut-être une information pour les gens. C'est Radio Nationale apparemment, mais pour ceux qui seraient dans notre coin, il y a quand même ce côté, la santé communautaire, elle se pratique avec une communauté, et nous on a choisi une communauté de territoire, et donc les gens comprennent, ils sont dans une zone géographique très restreinte qui est à côté de notre centre de santé, qui est vraiment le quartier Village 2, le quartier Grand Galais à Pont-de-Clay, et puis juste une toute petite zone derrière. Donc voilà, c'était juste, on est vraiment désolé de ne pas pouvoir le faire, mais on n'accueille pas tout Grenoble, on n'accueille même pas tout Échirolle, on n'est pas en capacité de le faire. Voilà, juste dire ça. Et une autre chose, c'est dire aussi qu'on n'a rien inventé, que la santé communautaire, c'est quelque chose qui existe dans des tas de pays depuis très longtemps, que du coup, si on veut essayer de comprendre un peu mieux ce qu'on fait ici, on peut se renseigner sur qu'est-ce que c'est que la santé communautaire. Mmh. Et en France, on a quand même la grande sœur, la Caisse de Santé à Toulouse, qui est là depuis 10 ans, et qui se bat contre vents et marées pour faire progresser ce genre d'idées. Voilà, il y a quelques centres qui devraient voir le jour sous peu, mais on est vraiment très peu. Mais par contre, ça se fait très bien ailleurs. N'hésitez à se renseigner sur ce que c'est que la santé communautaire et les centres de santé communautaire au travers du monde.
Et ben merci beaucoup et puis belle suite d'aventure à vous.
Merci.
La place.
Caroline Boyer.
La place.
Sur le trottoir d'à côté.
Caroline Boyer. Espace public de rencontre.
Participation citoyenne.
Action collective.
Politique publique.
Travail social.
La place. Sur les trottoirs d'à côté.